Merci Nicolas, bonjour à tous. Je ne sais pas quelle est votre série préférée du moment. La série sur Netflix ou sur une autre plateforme que vous avez hâte de suivre. Vous attendez le prochain épisode. Quand vous avez un moment libre, vous allez vite regarder la suite de l'histoire. J'espère que votre série favorite va être celle qu'on commence ce matin dans nos prédications. On va écouter ensemble une série de prédications. Chaque dimanche, il y aura un épisode nouveau dans l'histoire de Josué, sixième livre de la Bible. Et je vous invite à l'écouter non seulement aujourd'hui, mais dans les prochaines semaines, de ne pas rater un dimanche matin pour pouvoir comprendre la suite de cette série qui est assez passionnante. C'est un livre qui est connu en partie, mais peut-être pas beaucoup lu. Certaines des choses qu'on va lire même ce matin vous seront un peu familières, mais d'autres choses, moins. Alors juste à titre illustratif, levez la main si vous avez déjà lu le livre de Josué dans son entièreté. Levez la main, s'il vous plaît, si vous avez déjà lu le livre de Josué dans son entièreté. Et maintenant, levez la main si vous ne l'avez jamais lu. Levez la main, allez, ne soyez pas timide, si vous ne l'avez jamais lu. On n'est pas là pour juger. On comprend que ce n'est pas très familier, alors, ce livre-là, mais vous allez le découvrir avec nous ensemble. Alors, qui était Josué? Le peuple hébreu, réduit en esclavage en Égypte, vous connaissez ce chapitre où cette histoire a été libérée par Dieu avec Moïse lors de l'Exode. Ils sont sortis de l'esclavage et ce peuple hébreu a traversé la mer Rouge, c'était ouverte devant eux. Et ils sont allés vers une montagne, le mont Sinaï, où ils ont reçu la loi de Dieu, les 10 commandements de Dieu, entre autres. Et puis ils se mettent en marche avec Moïse vers un territoire qui ne leur appartient pas encore, mais qui leur était promis. Dieu avait promis cela à leur ancêtre Abraham. Et à la frontière de ce pays, Moïse choisira un homme de chaque tribu. Il y avait 12 tribus. Plus la tribu de Lévi, il n'a pas choisi quelqu'un de Lévite, mais il a choisi 12 autres tribus, un homme, un chef, un représentant, pour aller dans le pays et l'observer, explorer le pays, observer la moisson, considérer les villes fortifiées. Et quand ils reviennent, ces 12 hommes, et Josué était un de ces hommes, un des chefs qui représentait sa tribu, en nombre 13, quand ils reviennent, c'est la plainte. C'est la peur générale. Oh non, ils sont trop grands. Oh, on ne va pas y arriver. Ce pays va nous dévorer. Ces gens vont prendre nos femmes. Alors ils se disent, on va choisir un autre leader et on va repartir en Égypte. Il n'y a que Caleb qui représente la tribu de Juda et Josué qui représente la tribu d'Éphraïm qui vont s'y opposer. Ils vont dire non. Josué dira, si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. Et ils ajoutent, l'Éternel est avec nous, n'ayez pas peur d'eux. Et quand ils font cette exhortation, vous savez quelle est la réponse du peuple ? Ils parlent de les lapider. Ils veulent lapider Josué et Caleb. Alors Dieu intervint. Et en fait, il annonce alors que tous ceux qui ont plus de 20 ans vont mourir dans le désert. Tout le monde qui a plus de 20 ans dans ce peuple, ces 12 tribus. Sauf Josué et Caleb. C'est extraordinaire. Alors les jeunes vont tourner dans le désert pendant 40 ans, le temps de vieillir, et pendant ce temps, tous les autres vont mourir, la génération supérieure va mourir. Et donc nous arrivons à Josué, chapitre 1, et c'est la fin de ces 40 ans dans le désert. Josué a maintenant, quoi, 60 ans, 70 ans, peut-être 80 ans? Et il apprend que c'est le moment pour que lui se mette à l'œuvre. Lisons Josué, chapitre 1, on commence tout au début. Première phrase, premier chapitre. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. Passe le Jourdain, avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté du Jourdain. Mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères, comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Alors vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de ce côté-ci du Jourdain, à l'est. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as donné, ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel ton Dieu veuille seulement être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéirait pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. » Je pense qu'on a tendance à identifier Josué avec pas mal de personnes. Peut-être qu'on l'identifie d'abord à Moïse, parce que c'est vrai qu'il y a une ressemblance, n'est-ce pas? Le chef du peuple d'Israël a été Moïse, et maintenant ça va être Josué, parce que Moïse est monté sur une montagne, il est décédé devant Dieu, et maintenant c'est Josué qui prend la relève. Il y a beaucoup de parallèles qui sont établis entre Josué et Moïse. Peut-être qu'on peut aussi identifier Josué avec Timothée. Vous imaginez ce que c'est de succéder à l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul lui écrit en disant « Moi je meurs, mais c'est toi qui vas prendre le flambeau. » Et il lui dit « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force. » C'est un peu le même topo, n'est-ce pas ? Fortifie-toi et prends courage. On peut aussi généralement penser aux dirigeants, parce que Josué est un exemple de dirigeant. Alors souvent, on fait le parallèle entre Josué et les dirigeants. Et puis on peut faire le parallèle entre Josué et nous-mêmes. Très souvent, lorsque nous lisons ce chapitre, nous disons « j'ai besoin de courage » et « ah oui, voilà un verset qui dit « fortifie-toi et prends courage » et ça nous fait du bien. Mais j'aimerais vous encourager, non seulement aujourd'hui, mais pour les prochaines semaines, à voir Jésus comme un avant-coureur de Jésus-Christ. De commencer à voir des parallèles entre Josué, personnage historique, un vrai personnage, et Jésus. Pourquoi ? Parce que déjà, Josué et Jésus, ils ont le même prénom. Josué en hébreu, Jésus en grec. Et ce prénom signifie « il sauve ». Et donc, en comprenant qui est Josué comme le sauveur de son peuple, nous allons bien sûr voir le plus grand sauveur qui est Jésus. Et on va voir les parallèles qu'il y a dans ces portraits du sauveur que Josué va nous présenter chaque chapitre. Josué, bien sûr, n'a pas sauvé son peuple de façon éternelle. Il a sauvé de manière temporaire. Jésus nous a sauvés de manière éternelle. Jésus nous sauve du péché. Il est le seul à pouvoir faire cela. Mais à travers ce livre, nous comprendrons mieux pourquoi il nous faut un sauveur et comment Josué a préparé ce chemin. Mais celui qui est meilleur que Josué est venu. Hier, j'ai lu 2 Timothée chapitre 1, verset 9, et j'ai trouvé que ce verset était un bon résumé de ce que nous allons voir aujourd'hui, donc je vous le lis en début, en fin de prédication. Dieu nous a sauvés, nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Gardons ces choses en tête, donc nous regardons Josué 1 ensemble. Alors nous allons commencer avec ce titre, « Le Sauveur doit être un leader ». Il n'y a pas de projection aujourd'hui, on va devoir se concentrer pour retenir ces choses, mais le titre de la prédication c'est ça, « Le Sauveur doit être un leader ». Josué, le sauveur de son peuple, doit savoir les conduire. Il ne peut pas sauver son peuple en restant dans le camping et en organisant des barbecues pour que les gens puissent profiter d'un bon moment. Ce n'est pas ça qu'il va être. Il ne va pas être un animateur, il va être un leader. Alors regardons les trois étapes de ce chapitre. On va regarder d'abord Dieu, et puis Josué lui-même, et puis on va parler du peuple et de la réponse du peuple. Vous êtes prêts? On commence par Dieu. Dieu parle et Dieu accompagne Josué. C'est l'Éternel qui parle au verset 1. L'Éternel dit à Josué. Et puis il va faire un long discours, versets 2 à 9, sur son discours. Dieu met son plan en opération par sa parole. C'est toujours comme ça. Il annonce son plan. Et ça nous fait penser à comment il l'avait fait avec Noé, par exemple. Il avait dit « Voici ce que je vais faire ». Ou à Moïse, bien entendu. Il a dit « Voici, je prépare l'Exode ». Comme il le fera au prophète également. Ici, il parle pour annoncer son plan. Et on voit qu'il donne des ordres. « Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le pays. » Verset 9, « Ne t'ai-je pas ordonné ?» C'est Dieu qui donne des ordres. Quand Dieu parle, il met en opération son plan. Parce que lorsqu'il promet qu'il va faire quelque chose, il accomplit ce qu'il promet, ce qu'il annonce. Mais nous voyons aussi que c'est l'Éternel qui donne. Le verbe qui revient le plus souvent dans ce verset, c'est « donner ». Verset 2, c'est « le pays que je donne aux Israélites ». Verset 3, « là où vous marchez, je vous le donne ». Verset 6, « j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner le pays ». Verset 11, c'est pareil, n'est-ce pas? Et on aura une étude biblique prochainement sur la terre promise et sur ce que cela signifie aujourd'hui encore. Verset 13, vous voyez que c'est un autre verbe, mais il dit « vous a accordé, Dieu vous a accordé du repos ». Et verset 15, à nouveau, il parle d'accorder du repos. Le Dieu qui envoie est le Dieu qui donne. Il donne le territoire, il donne le pays, il donne le repos. Et c'est l'Éternel aussi qui est avec lui. Il assure Josué. Cette promesse du verset 4 a dû lui faire beaucoup de bien, n'est-ce pas ? « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Quelle relation intime il y avait entre Moïse et Dieu. Il parlait face à face. Il connaissait le dessein de Dieu. Il connaissait l'appel de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu pour son peuple. Il priait à Dieu. Il louait Dieu. Il comptait sur Dieu. Et Dieu était présent avec Moïse. Et maintenant, Dieu va être présent avec Josué. Et il dit au verset 9, « Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi, où que tu ailles. » Vous savez, je pense que le désert était devenu un peu familier pour les Israélites. 40 ans, à différents endroits, c'est vrai, mais le contexte était le même. Mais entrer dans la terre promise, c'était en fait une étape inconnue. C'était en quelque sorte quitter la sécurité du désert où on les laissait tranquilles pour entrer là où ils n'étaient pas les bienvenus. Et quitter les familiers pour aller vers un nouveau lieu, c'est prendre un risque. Alors Josué est rassuré. Il ne va pas perdre parce que Dieu sera présent avec lui. Il ne laissera pas Dieu derrière lui dans le désert ou à Sinaï. Dieu sera avec lui quand il entre dans le pays, là où il ira, pour prendre le territoire. Alors, comment Dieu sera-t-il présent ? Par son esprit. Tournez la page Deutéronome 34, le chapitre précédent, Deutéronome 34, et verset 9. Josué, bien sûr, suit les cinq livres du Pentateuque. 34, verset 9 de Deutéronome dit ceci. « Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. » Il avait déjà reçu le Saint-Esprit sur lui. Et c'est pareil avec Jésus. Jésus passa par le Jourdain, n'est-ce pas, la rivière du Jourdain. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Et Jésus était donc rempli de l'Esprit lorsqu'il allait dans le désert. Alors ça c'est Dieu, la première partie qui parle de Dieu. Ensuite on va regarder la partie centrale sur le leader fidèle et courageux qu'est Josué. Leader fidèle et courageux. C'est assez typique, je pense, quand on entend qu'un chrétien a eu beaucoup de succès, a pu faire de grandes choses pour Dieu, on se demande, mais quel est son truc? C'est quoi la clé de sa réussite? Quelle est sa méthode? Et très souvent, nous cherchons une stratégie parce qu'on voudrait imiter la stratégie et savoir qu'est-ce qui marche. Mais Josué n'est pas un grand stratège. Dieu n'a pas choisi Josué parce que c'était quelqu'un de très stratégique dans ses pensées ou dans son approche. Vous savez, la conquête de Jéricho, quand on y pense, c'est quoi? Il tourne autour des murailles chaque jour, et puis une fois, sept fois, et puis les murailles tombent. Ce n'est pas vraiment une stratégie militaire, ça. Il y aura des moments où ils seront plus stratégiques, mais là, c'est juste ce que Dieu lui demande de faire. Mais ce qui démarque Josué des autres, c'est sa foi. Josué était un homme de foi. Un homme qui, malgré les apparences, malgré ce qu'il voyait, arrivait quand même à croire en Dieu et à mettre sa confiance en Dieu pour le résultat que Dieu avait promis. Et ça nous montre que Dieu, en fait, ne cherche pas des héros ou des super-héros. Ce qu'il cherche, c'est des gens fidèles, des hommes et des femmes fidèles. Ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Dit 1 Corinthiens 4, verset 2. Les responsables doivent être fidèles à leur femme, fidèles à la parole. Les chrétiens doivent être fidèles. Apocalypse 2, verset 10 dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. » Mais vous savez ce qui m'a marqué en regardant ce chapitre, c'est que c'est ce qu'il n'y a pas. Lorsque Dieu parle à Josué, il n'y a pas d'objection. Josué ne dit pas « Oh non, 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 pas moi. Oh non, 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 tu me demandes trop, là. » Vous savez, quand Moïse avait été appelé, il y avait tout un va-et-vient avec Dieu. « Ouais, mais genre, je ne sais pas très bien parler. Je ne suis pas sûr que je pourrais le faire. Et puis, je vais dire quoi quand ils me disent qui t'a envoyé ?» Et puis, finalement, il dit « Ben, envoie quelqu'un d'autre. » Il y a beaucoup d'objections de la part de Moïse quand Dieu l'appelle. Gédéon va dire « Moi, je suis... personne, moi je suis d'une petite tribu et je suis d'un petit clan, il ne faut pas me demander. » Même Jérémie, le prophète, va dire « Ah non, mais moi je suis qu'un jeune. » Et Dieu va lui dire « Non, mais vas-y, vas-y, je t'envoie. » Avec Josué, il n'y a rien de tout cela. Il donne directement l'ordre aux officiers. « On se prépare, on y va dans 3 jours. » Il y va. Alors comment est-ce qu'il exerce ce ministère? Alors, Josué, il doit conduire, il doit être courageux et il doit être centré sur la parole. On va voir ses caractéristiques. D'abord, conduire, il dit, hein, Dieu lui dit, lève-toi, vas-y avec tout le peuple. Josué ne peut pas y aller tout seul. Un penseur sous le leadership a dit ceci, un leader que personne ne suit est pratiquement en train de faire une promenade. Il va là-bas, il suit sa direction, mais il n'y a personne qui va avec. Ça, ce n'est pas le but, bien sûr, que Josué soit juste en train d'entrer dans le pays, tout seul, avec sa lance, en disant « voilà, je compte avec le Seigneur ». Mais non, il doit amener le peuple, il doit conduire le peuple avec lui. « C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays », Dieu lui dit. Et ça nous aide à ne pas devenir inactif, à ne pas utiliser la souveraineté de Dieu qui a nommé des responsables comme une excuse pour l'inactivité. Ben, si Dieu veut sauver les gens, ben, il peut le faire hein, avec les évangélistes. Ben, si Dieu veut que l'Église grandisse, ben, il ajoutera à l'Église. Alors nous, on ne fait rien. Donc quand il a voulu donner le pays à son peuple, il a demandé spécifiquement à Josué et à tout le peuple d'y aller, de se mobiliser, Et on le voit dans la façon qu'il parle au verset 11, « Vous passerez le Jourdain », et dans la façon dont il parle aux tribus de Gad, de Ruben et de Manassé. Alors juste pour expliquer un petit peu avec ces trois tribus, pourquoi est-ce qu'il leur parle particulièrement, pour donner un peu le topo, hein, le plan, si je peux faire ça de manière visuelle, ils étaient de l'autre côté du Jourdain, et là ils avaient déjà gagné des terres avec Moïse. Et Ruben, Gad et Manassé avaient dit « on aimerait bien habiter là ». Ils ont dit « ok, pas de problème ». Et puis il y a la rivière du Jourdain, une grande rivière qu'ils vont traverser parce que les autres pays, les autres tribus vont avoir leur territoire là de l'autre côté du Jourdain. Et les autres tribus allaient donc s'établir là dans leur territoire. Alors Josué leur dit « oui, vous pouvez garder ce territoire-là, mais vous allez laisser vos femmes, vos enfants, votre bétail, vos possessions ». Et vous, les hommes, vous allez quand même aller au-devant de vos frères et vous allez vous battre avec eux. Vous allez les aider à gagner leur territoire. Vous n'allez pas juste les laisser partir comme ça. On voit donc que Jésus est en train d'agir comme un leader. Il conduit. Ensuite, il est courageux. Ça revient comme un refrain, n'est-ce pas ? Verset 6, « Fortifie-toi et prends courage ». Et ça revient au verset 7, « Fortifie-toi et prends courage ». Verset 9 et puis verset 18, le peuple lui dit « Alors fortifie-toi et prends courage ». Et en Deutéronome, il y a deux fois au chapitre 31, Moïse qui dit « Fortifie-toi et prends courage » et Dieu qui lui dit « Fortifie-toi et prends courage » le dit à Josué. Il a entendu ça beaucoup de fois. Pouvons-nous comprendre qu'il avait certaines craintes ou que cela lui semblait une tâche quand même difficile de conduire le peuple vers la terre promise ? La dernière fois qu'il avait proposé qu'on aille dans la terre promise, il s'est presque fait lapider. Est-ce qu'il est prêt à le faire une deuxième fois, 40 ans plus tard, plus âgé, est-ce qu'il est prêt à affronter le peuple et dire « voilà, on doit y aller ». Vous savez que l'entrée dans la terre promise n'allait pas être facile. Ça allait demander des efforts intenses, des batailles rudes. Un général hésitant ou récalcitrant n'allait pas faire des progrès. Il doit être courageux. Et puis, il doit être centré sur la parole. Il y a vraiment beaucoup dans ce chapitre, n'est-ce pas ? Et on connaît certaines parties, on connaît cette phrase « Fortifie-toi et prends courage », mais on connaît peut-être moins cette autre partie, qui est tout aussi importante. Josué doit se conformer à la loi de Moïse, verset 7. « Ne t'écarte ni à droite, ni à gauche ». Et je sais que dans cette période des élections, on pense à la droite et à la gauche, mais ce n'est pas politique ici. Il est en train de dire « n'ajoute pas à la loi et n'enlève pas à la loi. Reste fidèle, pas de déviation de la volonté de Dieu, de la loi de Dieu. » Et Josué donc va exercer son leadership, mais ça ne va pas être par la force de sa personnalité. Ça ne va pas être parce qu'il a un charisme particulier. C'est parce qu'il est centré sur la volonté de Dieu, et parce qu'il enseigne fidèlement la loi, parce qu'il est attaché à la loi et pas à sa propre vision. Il va être à l'écoute de la Bible, il va lire la Bible, il va méditer la Bible et il va obéir à la Bible. Alors toutes ces choses que nous avons vues, ça peut sembler assez disparate, mais en fait, des choses vont par pair, Dieu et Josué. On a vu que Dieu donne, c'est Josué qui conduit, qui doit entrer en possession. On a vu que Dieu est présent et c'est ainsi que Josué peut être courageux. On a entendu que Dieu a parlé, ici on voit que Josué doit écouter la parole de Dieu. Vous voyez comment ça va ensemble et ça nous aide. Parce que si nous manquons de courage, nous pouvons certainement reprendre courage parce que Dieu est présent avec nous. L'Esprit de Dieu qui reposait sur Josué est maintenant en nous grâce à Jésus, grâce à la Pentecôte. Et l'Esprit qui est en nous est plus fort que l'Esprit qui est dans le monde, nous dit la Bible. Et si nous manquons de sagesse, si nous ne savons pas quoi faire, ben lisons la Bible pour acquérir la sagesse de Dieu. Alors c'est vrai que la Bible ne va pas nous dire dans quelle ville il faut habiter. Est-ce que c'est Charleroi ou Bruxelles ou Gand ? Ça va pas trouver un verset de la Bible qui nous dit cela. Mais la sagesse de Dieu va nous aider à comprendre ce qui est nécessaire pour obéir à Dieu. Pour décider s'il faut épouser Ruth ou Wendy, Il ne suffit pas de trouver un prénom dans la Bible et dire « Ah oui, mais le prénom de Ruth est dans la Bible, donc c'est elle que je dois épouser. » Mais non, mais la Bible nous donne les caractéristiques de celles, de ceux qui font des bons époux. Et alors on doit chercher des personnes qui se conforment à cela, qui ont la foi en Christ, qui sont gentilles, qui sont fidèles, etc., etc. Et le succès dans nos entreprises, dont il parle ici, ne signifie pas que nous allons nécessairement avoir tout ce que nous voulons. Mais ça veut dire que si nous conformons à Dieu, si nous cherchons Dieu dans la prière, il va nous aider dans nos entreprises, il va nous donner des solutions à nos problèmes pour que notre vie soit un succès aux yeux de Dieu. Mais ce portrait de Josué en tant que leader nous amène surtout à considérer Christ. Que fait Christ pour son peuple? Il conduit son peuple, il donne la direction. Il nous prend avec lui vers la terre promise. Il offre le repos, comme Josué qui va entrer avec son peuple dans cette terre. Jésus était parfaitement courageux. Même quand il voyait que les gens se dressaient contre lui et que la mort l'attendait, il a décidé de fixer sa direction sur Jérusalem pour aller à la mort. Il était vraiment courageux. Il a été fidèle également, obéissant en toutes choses à la loi de Dieu. Il n'a rien ajouté à la loi, il ne faisait pas comme les pharisiens qui ajoutaient des règles supplémentaires. Il n'a rien enlevé à la loi, il n'a pas été moins pur que ce que la loi exigeait. Il était parfaitement bon et saint, obéissant à Dieu et à la loi de Dieu. Vous savez, notre succès ne dépend pas finalement de notre obéissance à Dieu, de notre parcours, mais ça dépend du sien. C'est Jésus qui a parfaitement obéi et qui était parfaitement juste. Alors nous connaissons tous un leader fidèle et courageux, c'est Jésus. On doit d'abord l'admirer, on doit le louer, on doit certainement le remercier parce que là où nous étions des échecs, il était une réussite. Jésus a affronté l'épreuve, la douleur, le rejet, la mort, la séparation de Dieu le Père en allant à la croix. Et il l'a fait. Alors fixons les yeux sur lui. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Il a enduré la mort à la croix, en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Jésus est le vrai Josué. Il est le vrai leader qui sauve son peuple. Toutefois, je veux attirer votre attention à la réaction des membres du peuple. C'est la troisième partie. C'est plus court, mais c'est trois tribus. Comment est-ce que ce peuple réagit à Josué? En fait, c'est un peuple prêt à le suivre. Versets 16 à 18. Au lieu de mettre à mort Josué, pour sa suggestion d'entrer dans la terre promise, ils sont maintenant prêts à mettre à mort ceux qui seraient désobéissants. Au lieu d'être eux-mêmes rebelles, ils disent non, il ne devrait pas y avoir de rebelles parmi nous. La nouvelle génération est prête à suivre Josué comme leader. Eh bien, 40 ans, ça change, hein, n'est-ce pas? Beaucoup de choses ont changé en 40 ans. Et c'est aussi comme eux que nous devons être prêts à être conduits. Pour être clair, nous ne ressemblons pas à Josué, vous et moi, même si nous avons tendance à nous identifier à Josué. Mais nous ressemblons au peuple de Josué qui est appelé à suivre Jésus, notre Sauveur. Quand Jésus était à Jérusalem, la génération de son époque aurait dû dire ce que les Hébreux ont dit au verset 17. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Ça aurait dû être leur réaction, la première génération, là avec Jésus. On a obéi à Moïse jusque-là parce que Moïse nous a donné la loi. Maintenant que tu es là, on va te suivre, on va t'obéir. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils ont réagi malheureusement. Alors la question pour nous est, allons-nous réagir avec foi et avec obéissance? Sommes-nous prêts à faire des sacrifices? Ces tribus-là, qui sont de l'autre côté du Jourdain, devaient quitter leurs femmes et leur famille pendant un temps, sacrifier ce temps en famille. Ils devaient laisser leurs biens. Ils devaient même prendre les armes et être courageux pour aller eux-mêmes dans la bataille, prêts à faire des sacrifices. Oui, ils sont prêts à le faire. Mais moi, je reconnais que la génération qui est au-dessus de moi faisait des sacrifices plus naturellement. Ils avaient compris que ça faisait partie de suivre Dieu, qu'on devait faire des sacrifices dans tous les domaines de notre vie. Mais ma génération, et la génération qui vient après, je trouvais un peu lente à faire des sacrifices. On dit, je ne veux pas trop sacrifier. Pas mon temps, mon loisir, mon argent pour le Seigneur. Je veux garder des choses pour moi. Attention, parce que Dieu nous demande de faire des sacrifices. Et la réponse que Dieu attend de nous, en fait, elle est au verset 16, d'un modèle pour nous, n'est-ce pas? Comment nous pouvons répondre à Jésus? Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous n'allons pas être des leaders, nous n'allons pas être des sauveurs, mais est-ce que nous sommes prêts à être des suiveurs? Est-ce que nous sommes prêts à être des disciples pour faire des disciples de toutes les nations qui doivent obéir eux aussi à ce que Jésus leur a ordonné de faire? On se souvient de Matthieu 28, n'est-ce pas? C'est ça le mot d'ordre, que nous puissions être des disciples obéissants de toutes les nations, parce que Jésus a toute autorité. Alors ils doivent aller là où il nous enverra. Gaston, qui est pasteur à l'église d'Otigny, il a dit ceci, et ça m'a marqué. Il y a des gens qui fuient leur destin, et il y en a d'autres qui forcent leur destin. Alors, je ne sais pas si c'est possible, évidemment, de forcer son destin, mais je comprends ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Dieu t'a donné toutes les capacités pour être infirmière, et tu t'efforces à être comptable. Pourquoi tu as essayé de forcer le destin? Ou tu veux être missionnaire en Afrique du Nord, mais ici, tu n'as pas d'amis marocains. Pourquoi est-ce que tu essaies de forcer ton destin? Suivre Jésus, ce n'est pas poursuivre mes rêves et fuir mes responsabilités. C'est reconnaître que Dieu nous a donné certaines responsabilités et que nous devons d'abord les assumer, ne pas fuir notre destin. Alors si ta femme n'est pas apte à suivre ton projet, c'est ton projet que tu dois revoir et pas ta femme. Si tes parents ont besoin de toi, il faudrait d'abord t'assurer que tu prennes soin d'eux. Parce que c'est Dieu qui t'a donné ta femme, c'est Dieu qui t'a donné tes parents, c'est Dieu qui t'a donné ta situation. Ce sont des responsabilités que Dieu te donne. Sois d'abord fidèle dans les responsabilités que tu as, plutôt que de dire « Ah non, mais mon destin, c'est être autre chose, être ailleurs, faire autre chose. » Alors je termine en rappelant ces versets de 2 Timothée, chapitre 1. « Dieu nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Il n'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan » et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Alors nous qui avons un Sauveur, sommes-nous prêts à le suivre? Sommes-nous prêts qu'il soit notre leader? Alors fortifions-nous et suivons-le. Prions. Oui, notre Dieu, nous reconnaissons que tu as ton plan pour nous, et ce n'est pas nécessairement notre projet idéal, ce que nous aurions envie de faire. Pourtant, tu nous as créés avec des capacités, tu nous as donné des dons, tu nous as donné des liens familiaux, et tu veux que nous vivions notre vie à fond pour toi. Là où tu nous envoies, là où tu nous as placés, fais que nous soyons fidèles, pleins de confiance en toi, mais aussi obéissants, que nous puissions pratiquer les belles œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Et donne-nous, Seigneur, aussi cette joie de connaître en Jésus notre Josué, notre Sauveur, celui qui nous accorde le repos céleste, qui prépare la terre promise pour nous, pour que nous puissions habiter toujours avec toi et que nous puissions compter sur lui de jour en jour. Alors fortifie-nous, Seigneur, que nous puissions reprendre courage. Et donne-nous aussi une foi obéissante. Amen.